I'm Alfred Hitchcock.
I see humor in everything.
Last night, I dreamt I went to Mandalay again.
Suspense. Shameless suspense.
L'adolescent obèse, dessinateur de cartons d'intertitres, deviendra metteur en scène de films muets, puis dramaturge de suspense. 53 films et la même cohérence. Tout film d'Hitchcock est un passage. Passage de l'ombre à la lumière, de l'insupportable au supportable. La construction de son récit est toujours linéaire et la logique de ses histoires est toujours celle du dévoilement, de la découverte. Le héros hitchcockien est physiquement quelqu'un qui court, qui se déplace par tous les moyens. S'il s'arrête ou s'il se trompe de chemin, il est perdu. Hitchcock n'a jamais renié un de ses films, même s'il ne les aimait pas tous. Mieux, il a fait son propre remake avec L'homme qui en savait trop et à la fin de sa vie rêvait de refaire The Lodger, un de ses premiers films muets tourné en 1926. Hitchcock avait l'ordinaire en horreur. Certains critiquent maintenant sa cuisine du suspense. Truffaut, dès les années 1960, répondait déjà, à mon avis fort bien, à ce genre de critique. Reprocher à Hitchcock de faire du suspense équivaudrait à l'accuser d'être le cinéaste le moins ennuyeux du monde, et cela équivaudrait encore à blâmer un amant de donner du plaisir à sa partenaire au lieu de ne s'occuper que du sien propre. Ce soir donc, Hitchcock numéro 5, les plaisirs hitchcockiens. François Truffaut.
Je suis à peu près sûr que le premier film d'Hitchcock que j'ai vu est Notorious, qui s'appelait en français Les Enchaînés, sur l'écran immense du Gaumont Palace, qui avait la réputation d'être le cinéma le plus grand d'Europe, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, qui avait quand même 4500 places. Et alors là, évidemment, les baisers qu'échangeaient Cary Grant et Ingrid Bergman avaient vraiment une puissance mythologique. Enfin, le cinéma, à cette époque-là, était mythologique, puisque il avait le monopole des images qui bougent. Donc, déjà, quand la lumière s'éteignait dans la salle, il y avait une très grande émotion. Et c'est une chose que malheureusement on ne connaîtra plus maintenant, puisque les images sont galvaudées. Enfin, peut-être qu'un cinéaste, à force de talent, de génie, arrive à redonner quelque chose de magique à un film, mais pas a priori. Ce sera à force de travail et peut-être au milieu de son film, ça sera quand il aura vraiment envoûté, emmené les gens avec lui. Tandis qu'à l'époque, c'était vraiment formidable. Et d'autant plus que Notorious, d'ailleurs, est un film qui, curieusement, ressemble à un conte de fées, peut-être un conte de fées pour adultes, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du film, Ingrid Bergman est pratiquement prisonnière dans une maison, dans la maison du mari qu'elle a épousé, qui est un espion nazi en Amérique du Sud, et on l'empoisonne progressivement, c'est-à-dire chaque fois qu'elle prend du café, il y a un peu de poison dans ce café, c'est sa belle-mère qui l'empoisonne. Et là, Cary Grant va venir la délivrer, c'est exactement la belle au bois dormant, je veux dire, d'un baiser, il va la réveiller et l'emmener devant tous les méchants assemblés qui n'osent rien dire parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes informations, donc ils sont obligés de se taire. Alors c'était quelque chose de très grand et c'est facile à situer, c'était en 1946, c'est-à-dire un an après la fin de la guerre.
Dépêchons-nous.
Nous avons le temps.
Non, Joseph peut s'adresser à Alex pour avoir du vin. Je n'aurais pas cru qu'on boirait tant ce soir.
C'est un fâcheux contretemps. Est-ce qu'il me surveille?
Oui. Allez m'attendre dans le jardin. J'irai vous rejoindre derrière la maison et je vous mènerai jusqu'à la porte de la cave.
Les critiques étaient condescendantes, de toute façon, à l'égard de tout ce qui venait d'Hollywood. Et puis, particulièrement Hitchcock, parce que le brio de sa technique était évident. Et alors, on disait, c'est un technicien, mais il n'y a pas de substance, il n'y a pas de contenu. Voilà ce qu'était à peu près le credo de l'ensemble de la critique. Et puis, nous étions un petit groupe au Cahier du cinéma, principalement Claude Chabrol, Eric Romer, Rivette et moi. Et on aimait énormément, on a aimé La Corde, on a aimé beaucoup ce film qui s'appelait Les Amants du Capricorne. Et on a décidé de défendre Hitchcock. Et on a lancé aussi, d'ailleurs, dans la presse cinématographique, c'est une incidente, mais comme on n'en parle jamais, je préfère le dire, c'est amusant. On a lancé ce que vous êtes exactement en train de faire en ce moment, qui est l'entretien au magnétophone. Parce que moi, je rentrais de l'armée en 1952 et je voyais que toute la France était mobilisée à la radio par les entretiens de Robert Mallet avec Paul Léoto. Et c'était absolument formidable. Ces entretiens ont paru aussitôt dans un livre chez Gallimard que j'ai lu, qui m'a vraiment enthousiasmé. Et alors, mon ami Rivette et moi, on a dit au Cahier du cinéma, pourquoi est-ce qu'on n'emprunte pas un électrophone et puis on irait voir les cinéastes comme ça et on enregistrerait, ça serait plus fidèle que de copier des notes sur un carnet. Et le premier qu'on a enregistré comme ça, je crois, était Jacques Becker. Et ensuite, ça a été Hitchcock quand il est passé par Paris. Hitchcock, je l'avais rencontré évidemment plusieurs fois, puisqu'à partir de quand il est devenu producteur indépendant, il a pris l'habitude de venir une fois par an en France faire la promotion de ses films. Donc je l'avais rencontré quand même 3 ou 4 fois. Puis j'étais devenu moi-même cinéaste, j'avais fait 2-3 films, j'avais fait Les 400 coups et Jules et Jim. Et je lui ai écrit donc après Jules et Jim. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de spécial, un peu en dehors d'autre chose qu'un scénario, qu'un film. Donc je lui ai écrit à Los Angeles que j'avais l'idée de ce livre, que ce livre passerait en revue tous les films qu'il avait fait, les films muets en Angleterre, les films parlants en Angleterre, son arrivée à Hollywood, ses films hollywoodiens, et puis sa période de producteur indépendant dans laquelle il se trouvait, qui était un peu l'apothéose. Et je lui avais dit quel genre de questions. Je lui avais dit, pour chaque film, nous examinerons les intentions et le décalage entre les intentions et l'exécution, et à quel point vous êtes content du résultat, financier et artistique. Enfin, comme je savais qu'il était méthodique, j'avais fait une lettre très précise et de 5 ou 6 pages, enfin assez précise elle-même. Et effectivement, il m'a répondu que le principe lui plaisait, que le mois d'août serait une bonne date parce qu'il aurait juste à ce moment-là terminé le tournage des oiseaux, The Birds. Et moi, ça me donnait 3-4 mois pour réviser.
You all right? Oh, you want this.
Jean Douché.
C'est un conteur, un fantastique conteur qui se laisse emporter par le conte et qui est dans le conte. Ces contes de fées sont des contes d'horreur, comme il convient un conte de fées. Et justement, comme il convient aussi un conte de fées, ce sont des contes où on ne parle que de la sexualité. Hitchcock, c'est vraiment le cinéaste qui, comme un conteur arabe, veut charmer le public, l'auditoire. C'est du charme. C'est du charme dans le sens magique.
Mon français est sufficient pour commander le dîner dans le restaurant.
Qu'est-ce que vous aimez le plus en France, Alfred Hitchcock?
Une bonne restaurant Avec trois étoiles, certainement. It's very good.
Yes.
But I find that these big restaurants only specialize in one or two dishes.
Il a découvert que tous ces restaurants, au fond, n'ont qu'une spécialité. Ils se spécialisent dans deux ou trois plats, c'est tout.
Est-ce que c'est meilleur qu'en Amérique ou en Angleterre, la France?
Better in France.
C'est meilleur en France.
The English have good food, but they don't know how to cook it.
Les Anglais ont de la très bonne nourriture, mais ils ne savent pas comment la faire cuire, la cuisiner.
Un homme qui avait l'habitude de mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle.
Non, c'était presque complètement séparé. Bien sûr, nous connaissions les gens avec qui il faisait des films. Ça devenait habituel pour moi de voir Ingrid Bergman ou Joseph Cotten ou Cary Grant. C'est comme une amie à moi dont le père était joueur de baseball et elle avait l'habitude de voir tous ces joueurs de baseball. Et ça n'a rien de spécial, c'est une chose normale. Mais d'une manière générale, il séparait bien sa vie privée et sa vie professionnelle. Il sentait que quand on travaille, on travaille.
Après le témoignage de Patricia Hitchcock, celui de Daniel Gélin.
À Hollywood, tous les ans, pour faire marcher le commerce, on lançait une mode bicolore. Il y avait, l'été où j'étais, la mode était au noir et rose associé. Alors, dans la rue, tous les hommes étaient habillés de noir avec la chemise rose, avec cravate noire, chapeau de paille noir avec le ruban rose, avec tout. Les voitures étaient noires et roses, là-bas ça passait, là-bas ça passait. Et Hitchcock avait décidé, toujours, je pense, pour s'amuser, décidé de faire retaper sa salle de bain en noir et rose. C'est comme ça que j'ai connu la salle de bain d'Hitchcock. Mais avant la salle de bain d'Hitchcock, j'ai vu sa chambre. Et cette chambre est très symptomatique de toute la personnalité d'Hitchcock. Hitchcock était quelqu'un de très, très croyant et très dévot. Et en même temps, il aimait le fantastique. Alors, on oublie souvent que Salvador Dali avait fait exécuter des décors spécialement pour un de ses films, à propos d'un film à tendance complètement onirique, et il avait une toile de Dali. Dès qu'il se réveillait le matin, il n'avait devant lui que cette espèce de grande toile à l'huile admirablement peinte de Dali qui représentait un œil énorme. Hitchcock, tous les matins, se réveillait avec cet œil, ce grand œil, c'était tout lui ça. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'au-dessus de son lit, il y avait également, probablement pour le protéger du diable, il y avait un grand crucifix noir en ébène avec un Christ d'ivoire.
Gina Lolo Brigida, est-ce que vous êtes sensible au suspense dans un film?
Ouh là là, j'adore Hitchcock, mais quand ils sont comme ça, généralement je ferme les yeux. Il est formidable.
Et Frenesi, ça vous a impressionné?
Oui, ce soir je vais dormir avec la lumière ouverte, parce que j'ai très peur.
Alfred Hitchcock, encore une fois, on vous verra dans ce film. Vous avez même pris un bain pour apparaître sur l'écran.
Oui, oui, il y a, oui, c'est nécessaire. Mais pour un très petit moment, parce que je ne désirais pas pour jouer le rôle d'un acteur. J'avais dit, un petit rôle, c'est sufficient pour moi. Parce qu'un grand rôle, un acteur, I would say, qu'est-ce que c'est en français? Like catching a disease.
Attraper une maladie.
Oui, oui. Pour moi, je n'aime pas le rôle d'un acteur.
Oh, it's you again, Mr. Robinson.
Yes, I'm afraid so.
Well, I'm having my lunch just now. If you want an appointment, perhaps you'll be good enough to see my secretary. By the way, how did you get in?
Oh, no problem, really. Just a question of using your head. I waited in the courtyard till I saw a guy out for lunch.
It all seems a bit elaborate.
Well, perhaps, but... you're the one I wanted to see.
I thought I'd already explained to you that we cannot help you.
Oh, come on now. I know that you can be most helpful when you try.
Look, Mr. Robinson, you want women of a specific type.
Bruno Villiers.
Il apparaît dès dans The Lodger. Il apparaît d'ailleurs, c'est très flatteur, comme, pour la première fois, comme dans un journaliste. Mais on ne le voit que de dos, il faut dire. Mais en fait, c'est un journaliste qui transmet les messages. Et ensuite, il est un des spectateurs qui regarde justement Ivor Novello enchaîné. Donc, vous voyez, c'est une image très caractéristique et que la foule va lyncher, apparemment. Et ensuite, on le revoit presque partout. Il a dit c'est sa signature. C'est comme les peintres, depuis très très longtemps, non seulement signaient leurs tableaux, mais certains se représentaient dans le tableau ou dans les fresquistes italiens. Lui, sa signature, c'était ça. Et alors évidemment, si on veut faire un peu de psychanalyse facile, c'est évidemment très tentant de dire que comme il était gros, qu'il était moche, qu'il le savait très bien, il a transformé ce qui était un défaut en atout, en faisant un personnage comique. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans toutes ces apparitions, elles sont mises en scène et elles sont écrites. C'est jamais juste, il est jamais juste planté dans un coin du décor. Il fait quelque chose, il y a une petite histoire. Quand on le regarde bien, il fait toujours quelque chose. Et il s'est par exemple toujours amusé à se mettre en scène avec un objet qui lui ressemble. Et il y a un certain film où il est apparu avec un énorme étui à violoncelle et on dirait qu'il promène son double au bout de son bras.
Une des apparitions peut-être les plus drôles et les plus émouvantes, en même temps il est plus rusé, c'est peut-être celle qui existe dans Lifeboat.
Oui, en effet, vous avez tout à fait raison, parce que ça, c'est évidemment le problème. Comme c'est un film qui se passe entièrement sur un bateau de sauvetage dans la mer, et c'est justement un film politique, puisque c'est au moment où les nazis sont encore au pouvoir et pendant la guerre, et donc c'est un nazi qui s'empare en fait du bateau et des Américains qui sont dessus. Et on va savoir qui va être le plus fort. Et là, c'est un film très directement engagé. Alors Hitchcock était face à un problème. Comment faire son apparition en pleine mer? Alors il avait dit, j'aurais bien pensé à faire un cadavre à mon image qui flottait, mais c'était dangereux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il l'a fait très longtemps après, parce que dans Frenzy, qui se passe à Londres, où ça commence par des cadavres féminins qui flottent sur la Tamise, il ne l'a pas fait dans le film, il s'est montré juste lui en train de regarder cette scène. Mais par contre, pour la publicité du film, il a fait prendre des photos dans où il y a un gros Alfred Hitchcock qui flotte au fil de l'eau devant les maisons du Parlement. Mais il ne pouvait pas faire ça dans Lifeboat. Alors il a trouvé une chose qui en même temps est une chose très personnelle, parce que ça rejoint des choses qui m'ont été racontées, en particulier par la princesse Grace de Monaco, c'est qu'il a fait une photographie de lui, de profil, donc c'est avec un énorme ventre, et il a utilisé la photographie, il l'a fait retoucher, et avec un ventre tout plat, ce que jamais il n'a eu dans sa vie, bien entendu. Et alors, il a fait monter les deux photos l'une à côté de l'autre, et quand un des naufragés sur le bateau de sauvetage regarde un vieux journal, on voit apparaître cette publicité pour la marque Reduco, qui permet de maigrir instantanément, très rapidement. Et ce que Hitchcock était très très fier de son coup, il a raconté très souvent qu'il a eu des centaines de lettres de spectateurs qui lui demandaient les références de la marque Reduco. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que lui-même jouait à ça aussi, et la princesse Grace m'a raconté qu'avant le tournage de La main au collet, il lui avait demandé si elle voulait bien venir avec Alma, sa femme, et lui, faire un voyage de Paris à Monaco, où se tournait le film, pour, en s'arrêtant, un voyage de 4 jours, je crois, en s'arrêtant dans les plus grands restaurants, et donc en consacrant ce voyage à la gastronomie. Et la princesse n'a pas pu le faire parce qu'elle avait à ce moment-là un autre tournage juste avant. Mais elle m'a raconté que Hitchcock avait dans son chez lui avait un grand placard avec 20 fois le même costume noir, qui était un costume de bourgeois anglais vraiment pour Hollywood était le comble de l'exotisme, qu'il portait toujours sur ses tournages et qu'il en avait de tailles différentes. Elle m'a dit en anglais to play with, pour jouer avec ses différences de poids. Selon qu'il avait beaucoup grossi ou un petit peu maigri parce qu'il était allé moins souvent au restaurant, ça lui permettait de rester habillé toujours de la même manière.
Il y a un plaisir de jouissance hitchcockienne qui est très net et qui se passe au niveau des viscères. Le remuement délicieux des viscères quand on regarde un film d'Hitchcock avec toutes les émotions. Je dirais que les émotions d'Hitchcock, c'est pas du tout, ne le croyez pas du tout comme péjoratif, mais sont quand même au niveau du ventre et du bas-ventre. C'est à la fois du digestif et du sexuel. Un film d'Hitchcock, ça se savoure comme on savoure un aliment qui peut être très pimenté, ou au contraire un peu sucré, etc. Y a toutes les variétés chez Hitchcock de fruits qui nous sont proposés, mais c'est d'abord dégustatif. Et c'est vrai que c'est une... Et on a un plaisir chez Hitchcock qu'on ne trouve pas chez les autres. C'est vrai.
Est-ce que ça se déflore aussi?
Non,
le plaisir hitchcockien.
Impossible.
Pas quand on a vu plusieurs fois un film.
Impossible. Je dirais que plus on a vu un film d'Hitchcock, plus on prend de plaisir à son suspense. Je peux vous en parler quand même. J'ai vu vraiment certains films d'Hitchcock plus de 50 fois.
50 fois?
Ah oui, oui. De par mon métier, c'est un peu obligatoire. Oui, non. J'y prends toujours un immense plaisir. Par exemple, Mardi, qui est un film justement qui fait partie des films que j'ai vu plus de 50 fois, la fin de Mardi me bouleverse de plus en plus. C'est-à-dire que ça me met presque insupportable maintenant le voir. Non, au contraire, oh là là.
Don't worry. You've got nothing to worry about. Please. Take the money out of my bag. Please leave me alone. Look in my bag. There's enough money there to buy any woman you want. It's yours.
Last, I would say 20 years or 10 years.
Les dernières 20 ou enfin, 10 années, il faisait un film par an. Il faut bien se rappeler qu'il travaillait à tous les aspects de ce film. Il travaillait à partir du tout début. Il trouvait l'histoire, il travaillait avec le scénariste. Alors le scénariste partirait pour écrire les dialogues, et il reviendrait. Et alors là, il avait un carnet avec des grands carrés, trois grands carrés. Et il faisait le dessin de chaque plan, absolument de chaque plan pour l'opérateur. Ce qui fait que quand il entrait dans le studio, il savait exactement à quoi le film allait ressembler. Et ce qu'il disait toujours, c'est que la chose la plus ennuyeuse à faire dans un film, c'était le tourner.
What's the matter, Barbara? Did you see it happen?
He looked at me. His hands were on her throat. And he was strangling me.
How do you mean?
He was looking at her first, then looked over at me. He went in a sort of a trance. Oh, it was horrible. He thought he was murdering me. Why me?
What did I have to do with it? Do you know where Guy is? He went out with that man.
C'était une usine. Hitchcock était une usine comme Walt Disney est une usine. Bon, il s'entourait formidablement, il mettait sa patte avec tout ça. Mais Vertigo, vous savez de quel sujet? De Boileau-Narcejac. Bon, alors vous avez le nom d'un Américain qui a dû acheter les droits, mais en tout petit, c'est d'après un roman policier de Boileau-Narcejac. Et ben, tout ça, alors on dit que c'est un film d'Hitchcock. Oui, ben, au départ, l'histoire est de Boileau-Narcejac. Alors, il y avait des tas de gens qui travaillaient pour lui, des écrivains, des scénaristes, et tout ça sous sa directive, et tout ça, il rajoutait sa patte, mais c'était un travail d'équipe. Un travail d'équipe, et même, je l'ai surpris un jour à Marrakech, je suis rentré dans une pièce au premier étage, croyant rentrer au restaurant, et je suis tombé dans une salle de restaurant, une autre salle de restaurant, où il n'y a personne. Et il était en train d'engueuler un anglais, un vieil anglais, complètement pété, complètement... Et encore, ça avait été de scotch. Et Hitchcock l'engueulait. Et c'était un type qui était en train d'écrire les dialogues, qui était en train de refaire des scènes. Peut-être il lui demandait d'écrire cette scène d'après le repas qu'il avait vu chez ce prince arabe. Et il y avait des tas de types qui travaillaient pour lui, qui sont jamais cités dans les génériques.
What will I be?
Like a fine doctor.
Will I be handsome? Will I be rich? Here's what she said
what
to me.
Hey, Sarah, whatever will be. The future's not out to see. Hey, Sarah.
À un moment, vous avez une très belle expression à propos de Marnie. Vous dites qu'il appartient à la catégorie des films malades. Qu'entendez-vous par là, par cette expression?
Ah oui, j'ai inventé cette catégorie parce que, qui n'existe pas, parce que dans Pariscope, on a les films historiques, les grands classiques du cinéma, les comédies dramatiques, mais on n'a pas les grands films malades. Un jour, peut-être, on mettra les grands films malades. Non, les grands films malades, c'est très subjectif, d'ailleurs, comme catégorie. Mais enfin, dans le cas de Marnie, c'est différent. Ça me gêne un peu d'en parler. Mais enfin, je pense que Hitchcock avait découvert Tippi Hedren, et avait eu l'espoir d'en faire une nouvelle Grace Kelly ou une nouvelle Ingrid Bergman, enfin en tout cas une de ces actrices comme ça qu'on garde pour plusieurs films et dont on va presque planifier la carrière, à qui on va donner des rôles de plus en plus importants et qui vont la rendre de plus en plus glorieuse, etc. Et en fait, dans le premier tournage, Les Oiseaux, je pense qu'il a déjà été un peu déçu. Mais quand même, il se sentait obligé de la reprendre pour Marnie, et que dans Marnie, c'était la crise, et que de nouveau, il a... Et puis, des raisons que je ne connais pas. Enfin, on fait que ce film a dû se tourner dans une ambiance un peu sinistre, et effectivement a échoué, alors qu'il y avait là-dedans un très bon thème, c'était l'histoire d'une voleuse, d'une femme qui change d'identité constamment, qui se rend d'un endroit à l'autre et qui vole de l'argent sous des identités différentes, dans des bureaux, se console en faisant du cheval parce que c'est le seul moment où elle se sent pleine. Voilà, on voyait aussi les relations difficiles qu'elle a avec sa mère, une femme du Sud. Le film est à la fois passionnant et raté. C'est pour ça que j'ai employé cette expression de grand film malade, parce que je ne pense pas qu'objectivement on puisse dire que c'est un bon film ou un film réussi. Et pourtant, enfin, à chaque fois que je l'ai vu, j'étais assez remué. Ça m'a ému, et j'ai senti aussi que Hitchcock ne l'avait pas tourné dans l'allégresse ou avec détachement. Je sentais qu'il s'était impliqué beaucoup dedans.
Thank you.
plus il avance, plus il approfondit, plus il approfondit, plus il perd sa clientèle. C'est-à-dire que tout ce que les gens croyaient être Hitchcock se révèle peu à peu ne pas être exactement ça. Le vrai sujet d'Hitchcock, c'est justement le rapport sexuel entre les gens, enfin le rapport amoureux, et le drame de ce rapport, dans ce rapport, c'est pas pour ça que les gens venaient voir Hitchcock. Donc il y a eu une sorte de désaffection par rapport à lui. Et évidemment, comme quelqu'un qui adore raconter, qui passe tout son temps à fabriquer la plus parfaite mécanique de comptage, quand ce quelqu'un voit s'échapper son public, il s'affole un peu. Et comme tous les vrais grands artistes, en fait, c'est pas seulement Hitchcock, plus ils avancent, plus ils connaissent et plus ils ont peur. Parce que justement, ils connaissent. Et c'est vrai que tous les derniers films d'Hitchcock ont été faits sur l'emprise de l'angoisse de rater le film. Alors moi, je ne suis pas tout d'accord avec Truffaut quand il dit que Hitchcock s'est terminé avec Marnie. Je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve que la dernière période d'Hitchcock est une période qui va être redécouverte un jour ou l'autre. C'est-à-dire avec les derniers films d'Hitchcock. Et on s'aperçoit que ce sont des très grands films aussi. Mais c'est vrai qu'ils ne sont plus faits avec le même enthousiasme, je dirais, peut-être pas la même passion, sûrement pas, mais le même idée finalement de la femme, etc. Ça devient des œuvres beaucoup plus philosophiques à la fin. Et je crois que c'est là où et en même temps, la peur. C'est vrai, Truffaut le dit bien, d'ailleurs, le raconte bien. J'ai relu le tout récemment dans sa réapparition. Quand il parle de la fin de Topaz, où justement, il a eu trois fins, il a hésité, il a refait, etc., etc. C'est vrai qu'il s'inquiétait de plus en plus. Enfin, curieusement, il avait l'impression de ne plus savoir faire. Mais ça, je vous dis, je crois que ça arrive qu'au plus grand, ça.
Tous les gens qui l'ont vu vraiment à l'extrême fin de sa vie disaient que c'était triste parce que c'était un homme qui n'avait vécu que pour faire des films, qui travaillait sur un film et qui quand même un ou deux ans avant sa mort a su qu'il ne pourrait plus jamais le faire parce qu'il avait un stimulateur cardiaque que les assurances sans doute n'auraient pas marché. Mais en même temps, il était un des patrons de Universal, une énorme maison de production, donc il aurait pu, en fait, comme il a fait après Family Plot, sans doute tourner son dernier film qui s'appelait The Short Night. Alors il y a quelque chose de très triste, et je pense en particulier à Cukor, à George Cukor, qui est un autre grand metteur en scène aussi que j'admire beaucoup, que lui, par contre, j'ai eu la chance de voir deux fois un peu longuement avant sa mort, et qui lui a tourné vraiment jusqu'à son dernier souffle. Et trois mois avant sa mort, il était encore en train de préparer un film. Il avait aussi le même âge qu'Hitchcock, il avait plus de 80 ans. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que le cinéma est tellement cruel comme art, en ce sens que non seulement il faut que vous ayez de l'imagination, du talent, mais il faut aussi que vous ayez 500 millions. Tandis que si vous êtes romancier, vous avez juste besoin d'un crayon et d'une feuille de papier. Alors il y a ça qui rend la fin de la vie d'Hitchcock un peu tragique.
Et que pensez-vous de ces derniers films qui n'ont pas été tellement bien vus par les critiques et par le public?
Ça dépend. Son avant-dernier film, Frenzy, a été un très gros succès commercial et critique. C'est celui qu'il est revenu tourner à Londres et où il est allé, alors là, je crois, le plus loin dans les obsessions et les perversions. Il y a une scène en particulier qui est vraiment, même aujourd'hui, encore difficile, difficilement soutenable parce qu'elle est en même temps psychologique. Ce qu'il montre, en fait, c'est une femme qui est violée et qui, en mourant, en étant étranglée en même temps, récite un psaume, un très beau psaume. Et c'est une scène très, très effrayante. Et où là, je crois qu'Hitchcock n'avait jamais été aussi loin dans cette espèce de mariage qu'il fait entre la religion et la sexualité, dans ce cas-là de plus horrible, c'est-à-dire un viol. Et alors là, je crois que, évidemment, ça en dit très long aussi sur beaucoup de ces perversions, de ces obsessions dont on parlait. Alors évidemment, Family Plot, par contre, a été accueilli très respectueusement parce qu'on savait que c'était sans doute son dernier film. Et c'est un film un peu bizarroïde parce qu'il revient à des sortes de comédies, de poursuites, comme il en a fait quelques-unes dans le cinéma muet et puis même ensuite à Hollywood. Et alors c'est un film plus léger, mais là encore, il règle ses comptes. Et c'est sûrement pas un hasard s'il organisait dans ce film pour se venger des jésuites le kidnapping d'un évêque qui non seulement est kidnappé par des malfaiteurs, mais est drogué et à qui on donne des mauvaises choses à manger.
Someone is here, not closely, not willingly. I feel a holding back. What's the trouble, Henry?
Too many memories, too much pain, too much sorrow.
Vers la fin de sa vie, Hitchcock va de plus en plus à une, je dirais pas une improvisation sur le plateau, mais à une liberté sur le plateau. C'est-à-dire qu'il est un peu moins prisonnier de son découpage, qui, comme vous le savez, était d'une précision quasi chirurgicale, ou quasi suisse, enfin, tellement c'était parfait. Donc il se laisse un peu plus de liberté. Mais c'est vrai aussi que Hitchcock a toujours, sur le plateau, laissé parler le sensoriel et faire prendre le pas au sensoriel, c'est-à-dire vraiment est-ce que le rendu est bien rendu, est bien onctueux, c'est-à-dire que ça c'est le côté cuisinier d'Hitchcock, est-ce que la sauce est quand même vraiment bonne, et donc sur le plateau il donnait de la chair, mais ce tremblement, enfin cette espèce, non, moi je le vois pas. Peut-être que d'autres. Truffaut a l'air de le voir mieux que moi, mais comme Truffaut a toujours regardé Hitchcock en fabricant, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose des problèmes de fabrique, donc il voit peut-être mieux que moi. Moi je le sens pas, je sens plutôt l'angoisse générale, mais pas l'angoisse particulière à tel moment. Une défaillance, en tout cas, moi je vois pas de défaillance réellement chez Hitchcock.
Père à la fin de sa vie.
Il y avait un film qu'il allait faire qui s'appelait The Short Night. Mais ma mère avait été très malade, elle avait eu plusieurs attaques. Et à l'époque où lui aurait pu faire ce film, il y avait beaucoup trop de problèmes professionnels avec le script, avec d'autres choses, et il aurait dû partir en Finlande. Et la logistique de l'ensemble était absolument impossible. Et c'est là qu'il est tombé malade, très malade, et ça aurait vraiment été impossible de faire ce film.
La postérité d'Hitchcock, elle est immense et très diverse. On peut dire que quand même, il n'y a pas un cinéaste, un jeune cinéaste aujourd'hui, un peu conséquent évidemment, qui d'une certaine façon ne porte pas un peu la trace d'Hitchcock. Bon, Truffaut, on n'en parle pas, il le dit assez. Romer, on en parle moins, mais c'est sous-entendu. Chabrol, c'est évident. Godard, c'est moins évident, mais il y a quand même une influence hitchcockienne sur Godard. Si on prend que les Français, les Américains, on n'en parle pas. Il est devenu une espèce de dieu maintenant chez les Américains. Chez les Allemands, aussi, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu un cinéaste, qui est un tout petit peu cinéphile évidemment, qui n'ait pas vu des films d'Hitchcock et qui ne soit pas posé des problèmes. Donc je ne vois pas de gens qui échappaient à Hitchcock, mais par exemple un type comme René est quelqu'un qui a été très influencé par Hitchcock. Le mouvement d'appareil chez René vient directement d'Hitchcock. Alors après il y a des gens comme Brian De Palma qui ne sont pas des imitateurs d'Hitchcock, c'est pas vrai du tout.
Et qui se réclament ouvertement
du maître, c'est-à-dire c'est des gens qui s'amusent à refaire une scène du maître, mais d'une façon qui, justement, ou qui laisse liberté à leur imaginaire. Bon, je veux pas prendre de... Mais après tout, pourquoi pas? C'est Picasso refaisant Velázquez, quoi. C'est-à-dire qu'on reprend toutes ses libertés sur un thème d'inspiration qui est dû au maître. Non, c'est vraiment, je crois que la postérité d'Hitchcock est très grande parce que tout simplement, il a touché non pas un genre, le suspense n'est pas un genre, mais un mode du spectacle, une manière, en tout cas une façon de faire qui est le suspense. Et d'une telle façon, avec une telle maîtrise, que toute personne qui veut faire, introduire une idée de suspense dans son film, ne peut pas se poser le problème de Hitchcock. On ne peut pas l'éliminer. Il est là, omniprésent dans ce domaine. Donc, comment contourner, comment ne pas faire comme lui? Par exemple, j'ai entendu quand Welles était venu à la Cinémathèque, Il a dit, je ne connais que deux escrocs dans le cinéma, M. Cécile B. DeMille et M. Alfred Hitchcock. Bon, dit par Welles, c'est intéressant. Intéressant de voir que Welles, qui a peut-être réalisé la scène de suspense dans le sens américain, c'est-à-dire dans le sens de l'action, la plus stupéfiante de cette histoire du cinéma, où il écrase là, complètement Hitchcock même sur cette idée-là, c'est-à-dire le tout début de La Soif du Mal, la bombe qui traverse pendant 3 minutes, le mouvement d'appareil, etc., qui est un truc prodigieux. Curieusement, il y a une chose qui ne marche pas avec Welles, c'est la grâce. Welles, c'est génial, mais ça manque de charme, hein, tout simplement. Et Hitchcock, par rapport à Welles, justement, moi, un Welles... Quand je suis devant, je ne peux pas ne pas admirer. Mais j'ai pas envie d'aller voir un Welles. J'ai envie d'aller voir un Hitchcock.
De fin du suspense hitchcockien, une courte bibliographie subjective, Hitchcock Truffaut, édition définitive Ramsay, un livre merveilleux qui se lit comme un roman policier, Bruno Villien, Alfred Hitchcock, édition Colonna, un livre de référence, très bien documenté, biographie, filmographie complète, Hitchcock Romer Chabrol, édition universitaire, et Hitchcock de Jean Doucher au cahier de Lerne. Ces deux textes, hélas, sont épuisés, mais valent la peine que vous vous précipitiez dans les bibliothèques. Un numéro spécial extrêmement intéressant de Caméra Stylo de novembre 1981, et puis bien sûr tous les numéros spéciaux de revues, je pense notamment à la revue Cinématographe et à celle du Cahier du Cinéma. Les deux Hitchcockiennes de base, Josette Collin et Laure Adler, qui vous ont proposé pendant toute la semaine ce Hitch Catalogue, espèrent que cela vous aura donné envie d'aller voir ou revoir les 5 films.